L'officine universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 9. Ching Shi, la reine pirate. La reine des pirates et chef militaire de génie se souvient de son règne sur la mer de Chine méridionale au début du 19e siècle. Aujourd'hui était un jour important pour Ching Shi. Le plan ambitieux qu'elle avait conçu des décennies auparavant allait enfin porter ses fruits. Le délicat papier de riz, tendu aux fenêtres grillagées de la résidence, adoucissait les durs rayons du soleil matinal qui pénétrait dans le boudoir. Le tapis en fourrure finement tissé, le magnifique jeté de lit en soie brodée de fils d'argent et d'or, les objets en jade posés sur la table de chevet et le luxueux parfum de musc dans la pièce témoignaient de l'opulence et de la position sociale de l'occupante des lieux. La résidence, située dans les faubourgs de Macao, au sommet d'une colline surplombant l'océan bleu azur, était entourée de jardins magnifiquement entretenus et décorés de fontaines. « Madame, puis-je me permettre ? Est-il vrai qu'autrefois vous avez vaincu en mer la marine impériale ?» demanda Chu, la coiffeuse, d'un ton feutré, mélangé de crainte et de prudence. Chu aimait raconter les aventures de sa flamboyante patronne à ses enfants une fois rentrée chez elle. Les yeux qui la regardaient dans le miroir étaient fiers et téméraires. Ils en avaient vu plus que beaucoup d'autres, et encore aujourd'hui, ils pouvaient inspirer la crainte divine aux plus courageux des hommes. Oui, et aussi les marines de la Compagnie des Indes Orientales et celles des Portugais. Ching Shi gloussa doucement. Elle avait à elle seule repoussé les limites de ce qu'une femme était capable de faire. De sa naissance dans la Tangka, là où les boat people, communauté pauvre de pêcheurs et de petits négociants, vivaient en marge de la société, elle était parvenue à prendre le contrôle de la côte sud de la Chine. Son instinct de survie, sa ruse et son charisme s'étaient forgés dans son enfance et sa jeunesse, passés en essayant juste de rester en vie. Elle ferma les yeux et laissa les souvenirs la submerger. Elle pouvait sentir la mer, entendre le fracas des vagues et goûter l'eau salée sur ses lèvres. Elle pouvait se revoir telle qu'elle était alors. Elle avait 15 ans et le bateau fleur flottait doucement sur un tronçon bondé de la rivière des Perles à Canton, tandis que des sons de rire alcoolisés et de musique provenaient du salon situé à l'avant. Vendue par son père à 13 ans pour éponger ses dettes, l'orpheline avait grandi sur ses embarcations de plaisance. Pourtant, même alors, elle savait que son destin était infiniment meilleur que celui d'une prostituée ordinaire. En quelques années, elle était passée de serveuse aux clients du bateau de plaisance aux commandes d'une flotte de plus de 1500 bateaux pirates et de 80 000 hommes. Elle était devenue, sur toutes les mers, la chef pirate la plus redoutée. Maintenant, deux décennies plus tard et à presque 60 ans, elle était propriétaire des centres de jeux les plus prospères de Macao. Pourtant, elle n'en avait pas fini. Elle en voulait encore davantage. Le cri strident d'un aigle à crête de serpent, plongeant sur sa proie quelque part au dehors, la sortit de ses pensées. Cet oiseau était son préféré, majestueux, impitoyable et fier. Il se nourrissait de serpents et régnait dans le ciel. Tout comme elle, qui prévoyait de s'emparer du poste du gouverneur et de commander la province. Au XVIIIe et XIXe siècle, à Canton, en Chine, au milieu des eaux du delta de la rivière des Perles, une zone basse entourant l'estuaire de la rivière qui se jette dans la mer de Chine méridionale, flottaient des bateaux fleurs ou embarcations de plaisance. Lieu de prostitution flottant qui s'adressait à la population locale. Les navires richement décorés faisaient partie de la culture chinoise depuis des centaines d'années. Pourtant, les bateaux fleurs du delta de la rivière des Perles surpassèrent leurs devanciers en réputation et en renommée et devinrent connus comme les plus beaux bateaux du monde. Il existait de nombreuses variantes de ces bateaux. Certains étaient beaucoup plus longs et plus grands que d'autres. D'autres avaient des structures de cabines élaborées avec une coupole, de vastes chambres supérieures et un pont. Une soirée sur un bateau fleur de Canton comportait d'extravagants repas venant des cuisines flottantes de la rivière et des spectacles donnés par maintes femmes chantant en public, magnifiquement habillées et maquillées. Pendant que certaines de ces dames remplissaient de vin les coupes, d'autres chantaient et jouaient de divers instruments de musique. Sur les bateaux, des femmes d'expérience entraînaient les filles novices à mémoriser de nombreux poèmes et des chansons pour le divertissement de leurs invités. La nuit, les bateaux fleurs étaient les objets les plus splendidement illuminés et décorés le long de la rivière, éclairés par des lanternes en papier et en soie aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les filles portaient leurs plus jolies robes de soie aux couleurs de l'Orient, lourdes de broderies raffinées. Les visages étaient très artistiquement peints de blanc et de rose, donnant à la peau une texture lisse et douce, tandis que des arcs noirs et aigus, délicatement tracés, marquaient les sourcils. Les courses vont commencer dans une heure, madame. L'assistante de Ching Chi, à la porte de sa chambre, lui rappelait doucement le rendez-vous du jour, la ramenant à l'instant présent. C'était le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire chinois, le jour de la fête du bateau dragon. Cette année, de nombreux dignitaires, fonctionnaires et hommes d'affaires importants y assisteraient. Et Ching Chi, étant une connaissance personnelle du gouverneur, en serait l'une des plus influentes. Chu, apporte-moi la boîte à éventail, celle offerte par le gouverneur. Elle savait user de son charme, vieille technique pour progresser dans les allées du pouvoir. Mais Ching Chi était également réputé pour se frayer un chemin par la ruse. Chu traversa lentement la pièce, ouvrant la porte de l'armoire en bois de camphre et sortit soigneusement la boîte luxueuse. Le couvercle laqué était finement décoré de sculptures et l'odeur subtile de camphre flottait dans l'air, éloignant les insectes. Elle plaça avec précaution la boîte sur la coiffeuse, tandis que Ching Chi préparait mentalement la réunion. Le gouverneur ne pourrait soupçonner, charmé par ses paroles mielleuses, que son propre secrétaire serait en train de passer son bureau au peigne fin, rassemblant les preuves de pots de vin et des commissions faites sur les fournitures du palais. Bien sûr, celui-ci enverrait directement l'information à Ching Chi. Après tout, il avait été son bras droit sur la flotte rouge avant qu'elle négocie pour lui un emploi de secrétaire auprès du gouverneur. Aidée par Chu, elle entreprit de mettre sa robe de soie vert émeraude avec les boutons en cuivre doré. Elle ouvrit ensuite la boîte en ivoire sur sa coiffeuse et en sortit l'éventail fait main exquis avec sa poignée en nacre et ses baguettes d'argent gravées. Abondamment décorées en relief avec des figures de cavaliers, de dragons, de bateaux et de fleurs, c'était l'accessoire parfaitement adapté pour l'occasion du jour. Enfin, elle glissa ses pieds dans les escarpins à talons hauts qui grandissaient sa taille déjà imposante et gardaient propre l'ourlet de sa robe. « Vous avez l'air d'une reine, madame. » Chu la regarda, la crainte et l'admiration brillant dans ses yeux. Alors que Chu enroulait les dernières boucles lâches dans une épingle à cheveux incrustée de perles et d'émeraudes, Ching Chi se regarda dans le miroir avant de se diriger vers les courses. Ching Chi, ancienne reine des pirates et actuelle chef du conglomérat du jeu de Macao, était prête pour sa prochaine conquête. Dans la Chine du XVIIIe siècle, la mode était principalement influencée par les tendances impériales de la dynastie Qing, de 1644 à 1911, caractérisée par divers types de robes. Les femmes préféraient les robes longues à manches larges, faites de soie et de brocart, chargées de broderies et de motifs délicats. S'habiller pour une occasion officielle impliquait également des coiffures raffinées, de beaux bijoux pour cheveux et des accessoires, comme l'éventail. Porter un éventail, lequel pouvait être une œuvre d'art, était un symbole de statut social tout en ayant une utilité pratique. À certains moments, il servait à souligner la modestie ou le flirt pour les femmes nobles. Selon une légende chinoise, il avait pour origine la fête des lanternes qui, un soir, connut une chaleur particulièrement oppressante. La belle-fille d'un mandarin enleva son masque pour agiter l'air en une douce brise. Frappés par la grâce du mouvement, les autres fêtards de la soirée laissèrent tomber leurs masques et suivirent son exemple. Les coiffures étaient exceptionnellement étudiées et construites, parées de fleurs et d'ornements. Beaucoup portaient leurs chevelures en forme de queue d'hirondelle à la nuque, comme les femmes Han. D'autres enroulaient leurs cheveux autour d'une pièce maîtresse en bois ou en ivoire qui pendait un peu des deux côtés de la tête, style caractéristique des Chinoises de Mandchourie. Les coiffures sophistiquées étaient ornées de fleurs brillantes tissées dans une structure en forme de couronne, parfois avec des ornements en jade. Les femmes aristocrates de la dynastie Qing disposaient généralement d'un coffret de toilette spécial ou d'une table de toilette. Il y avait là plusieurs types d'instruments pour se peigner, grands et petits, peigne en forme de croissant, peigne à 8 griffes, aiguilles plates, pinces, brosses, etc. Le peigne choubi était l'un des plus anciens et presque une nécessité pour toutes les femmes. Les dents, choux, étaient épaisses et légèrement écartées, principalement utilisées pour peigner les cheveux, tandis que les dents, bi, étaient fines et serrées pour en enlever la saleté. Le peigne a lentement évolué en accessoire capillaire. Les têtes joliment gravées sur les épingles à cheveux finement ciselées étaient fabriquées à partir de monoblocs de jadéite, de cristal, de corail ou d'ivoire. La variété des styles et des motifs d'épingles à cheveux sous le règne de la dynastie des Qing était sans égale dans les époques antérieures. Le démêlage impliquait l'usage d'un grand peigne pour répandre la chevelure sur une large surface, puis d'une brosse pour la nettoyer. Comme les gens de la dynastie Qing ne se lavaient pas régulièrement les cheveux, on utilisait des poudres à base de plantes et la brosse, un instrument capillaire particulier, pour les rendre propres. Des fleurs, des épices et diverses plantes médicinales chinoises étaient mélangées et broyées en une poudre fine, laquelle était saupoudrée, frottée et massée sur la chevelure. Ensuite, à l'aide de la brosse, la poudre était retirée avec la saleté. Ce rituel purifiait et désodorisait efficacement les cheveux. Après ce nettoyage capillaire, les dames utilisaient le peigne en forme de croissant moyen pour dresser le chignon et le petit peigne en forme de 8 pour les pointes et les favoris. Pour tenir l'ensemble de la coiffure lors du peignage, on utilisait une huile à base de graines de thé épicées et une laque de copeaux de bois de Nanmu trempés dans l'eau. Le bois de Nanmu était issu de plusieurs espèces d'arbres spécifiques de Chine et de l'Asie du Sud. La plus recherchée était celle du genre Phoebe, le Nanmu doré ou bois de l'empereur, l'un des plus chers au monde en raison de la présence de veines de couleur dorée dans le bois. Quant à l'huile de graines de thé ou huile de camélia, elle était réputée comme étant un élixir précieux pour la peau et les cheveux. Traditionnellement, on extrayait l'huile de la façon suivante. On broyait à la main les graines en une fine poudre que l'on grillait ou cuisait à la vapeur. De cette poudre séchée, on fabriquait ensuite des petits pains qui étaient alors pressés à froid pour donner une belle huile dorée. La calèche roulait par à-coups en direction des canaux où devaient commencer les courses de bateaux-dragons. Inspirées des calèches victoriennes de l'époque, les parties intérieures étaient ornées de magnifiques panneaux peints de paysages et de fleurs, tandis que la sellerie était de brocarts à motifs délicats. Qing Shi fut surprise de constater à quel point lui manquait encore le mouvement d'un navire en mer. Le doux tangage d'un océan apparemment calme, ou les violentes secousses d'une tempête déchaînée. Elle appartenait aux eaux infinies.
Qu'est-ce qui nous bloque ? Demanda-t-elle au cocher comme la calèche venait d'être secouée en s'arrêtant.
Un cortège de mariage, Madame Chi. Cela ne devrait pas être long avant que nous continuions notre trajet. En écartant les rideaux de sa fenêtre, elle jeta un coup d'œil à une berline de noces transportant une jolie mariée, toute vêtue de rouge. Elle sourit avec nostalgie. Comme n'importe quelle autre jeune fille, elle avait rêvé d'un grand mariage, espérant qu'un noble ou un haut fonctionnaire s'intéresserait à elle. Le rêve de toutes les filles des bateaux de plaisance, leur seul échappatoire à une vie de servitude. Mais Chang He, le puissant chef de la flotte des pirates du drapeau rouge, était tombé amoureux d'elle et lui avait proposé le mariage. Elle avait repéré dans l'engouement de Chang He, à son égard, l'opportunité de lui demander 50% de ses gains monétaires et un contrôle partiel de la flotte. Sous leur commandement conjoint, la flotte était passée de 200 à 1800 navires.
Ah, j'espère que la jolie mariée saura comment ne pas être juste un plaisir des yeux pour son mari. Une tête intelligente sur ses épaules lui sera très utile, fit-elle à voix haute. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la jeunesse de la fille, son visage et ses cheveux magnifiquement apprêtés. Elle savait aussi qu'une femme devait savoir se protéger, car la beauté s'estompait un jour. Elle avait été cette fille autrefois, il y a une éternité, semblait-il. Elle se souvint de son mariage. Se faisant belle elle-même, les rituels, les célébrations, le tout à bord de leur jonque. Elle ne s'était jamais sentie plus fortunée ou plus jolie.
Le patrimoine de la Chine en matière de soins naturels et de bien-être comporte de nombreux rituels et des recettes basées sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, lesquels sont essentiellement fondés sur la théorie de l'équilibre yin-yang. Aspect opposé et interdépendant de la vie.
Lorsque l'énergie circule harmonieusement, l'afflux de sang est bon, les réserves minérales du corps sont satisfaisantes et notre esprit est calme et serein. On obtient une peau radieuse, bien hydratée et ferme. Les déséquilibres de l'énergie entraînent pâleur du teint, perte d'élasticité et apparition des premières rides. Pour les femmes de la Chine ancienne, le maintien d'une carnation éclatante dépendait de diverses herbes et racines. Appliquées localement et ingérées sous forme de tisane, ces herbes traitaient de multiples problèmes cutanés et amélioraient la beauté naturelle. Par exemple, le thé de goji et de chrysanthème était utilisé pour détoxifier et renforcer le système de défense de l'épiderme. L'huile de cardamome est l'un des 50 principaux ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise. Riche en acides linoléiques et en vitamines K et E, l'huile de graines de cardamome atténue les irritations des peaux sujettes à la coupe rose et aux rougeurs. Elle a également des propriétés anti-vieillissement. On peut trouver des centaines de recettes à base de plantes et de minéraux naturels dans les textes historiques et les documents de la Chine ancienne. Les femmes utilisaient l'eau de riz pour éliminer toute impureté et éclaircir le teint. Les haricots de bain, un produit en forme de barre, composé de poudre de soja, d'herbes médicinales et de parfums, étaient utilisés comme savon. Plus tard, à mesure que les processus de fabrication du savon évoluaient, la cendre végétale, avec addition de graisse animale, remplaça la pâte de soja. Un fard à base de poudre de riz appliqué sur le visage était réputé donner un éclat à la peau et faisait également office de fard à joues, lorsqu'il était mélangé à un colorant rouge. Un riz de haute qualité était sélectionné avec soin, puis trempé, fermenté, nettoyé et séché avant d'être réduit en poudre fine. Une autre recette appréciée des têtes couronnées consistait en l'application délicate de poudre de perles sur la figure pour donner à l'épiderme un aspect plus sain et plus beau. La pommade de haricot mungo moulu, appliquée en masque facial, constituait également un remède efficace contre l'acné et pour dégonfler le visage. Les documents historiques signalent que du 16e au 11e siècle avant Jésus-Christ, le jus de la fleur de Honglan était épaissi et utilisé comme rouge à joues. On appliquait ce cosmétique pour un maquillage au teint de fleurs de pêcher. Les archives signalent un grand volume de formules pharmaceutiques comportant des éléments de fruits et de fleurs. Par exemple, on pouvait éclaircir la peau avec un mélange de prunes, de poires, de cerises, d'ibéris, de lotus blanc ou rouge, de fleurs d'inula, de pêche et de papaye, de clous de girofle et de poivre, d'éclats de perles et de jade, de fleurs de Sichuan et de graines de soja moulues en poudre. La médecine traditionnelle chinoise vantait aussi les vertus des extraits de pivoine et de ginkgo biloba, notamment pour les propriétés anti-vieillissement. Les pivoines étaient réputées pour lisser la peau et réduire rides et ridules. De même, l'extrait de feuilles de ginkgo biloba était reconnu pour améliorer l'aspect des peaux ternes et vieillies grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes agissant contre les radicaux libres. On utilisait également pour se soigner et se parfumer des huiles essentielles, des eaux florales ainsi que des ingrédients à base de fleurs. À mesure qu'elle approchait de sa destination, Qing Shi pouvait entendre le rythme festif endiablé des tambourins. Elle arriva rapidement à voir les barques finement sculptées et des bateaux flamboyants décorés de drapeaux colorés et peints de farouches dragons, ainsi que les équipes prêtes pour la course. Quand elle sortit de sa calèche, aidée par le cocher, l'odeur alléchante des boulettes de riz traditionnelles flottait depuis les étals de nourriture. Ses préférées étaient celles farcies à la pâte de haricots rouges. Elle pouvait aussi sentir les gâteaux frits sucrés et collants, faits de farine de blé et de riz. Des visiteurs gaiement vêtus s'agitaient autour d'elle, l'excitation de la course palpable dans l'air. Ceux-ci portaient d'élégants petits sachets de parfum pour respecter la tradition de la course du dragon, mais aussi pour des raisons pratiques. L'arôme des herbes et des épices contenues dans les petits sacs procurait une bonne odeur à son porteur, tout en le protégeant des insectes et des mauvais esprits. Près des bateaux résonnaient les chants des amateurs qui encourageaient leurs équipes. Qing Shi sentit la vitalité du spectacle jusqu'au fond de son être. Mais bien plus que des festivités ordinaires, son âme avait soif de pouvoir. Après la mort de son mari, elle avait régné sur la mer de Chine méridionale en s'assurant de la loyauté de sa flotte et de ses hommes, les dirigeant d'une main de fer. Elle avait mis en place un code éthique et tout homme qui violait ce code pouvait perdre la vie ou son intégrité physique. Elle connaissait aussi, par expérience, la trahison. Ce fut la reddition de son allié, le commandant de la flotte du Drapeau Noir, qui ne lui laissa pas d'autre choix que de se rendre également au gouvernement. Mais non sans avoir au préalable négocié les termes de sa capitulation pour satisfaire ses ambitions. Qingxi avait cédé sa flotte et ses hommes en échange d'une amnistie totale et à condition qu'elle conserve la totalité de sa richesse et que ses hommes puissent obtenir des emplois auprès du gouvernement. Ayant assuré son projet pour l'avenir, elle se retira à Macao et monta son entreprise de jeu. Certes, elle pouvait être défaite, mais jamais complètement vaincue. L'homme qui marchait vers elle maintenant était celui dont elle espérait bientôt posséder le titre. « Votre Excellence, nous nous retrouvons après si longtemps. J'espère recevoir bientôt votre visite à ma résidence. » Ce fut avec ces mots que Qingxi salua le gouverneur de la province d'une légère inclinaison du corps. « Oui, il lui rendrait visite tout prochainement, » pensa Qingxi, avec un sourire méprisant aux lèvres. Madame Xi, toujours aussi rayonnante et fascinante, dois-je dire. La complimenta le gouverneur admiratif. Elle est aussi ravissante aujourd'hui qu'elle l'était lors de sa reddition, pensa-t-il en lui-même. Visage parfaitement apprêté, peau radieuse, cheveux soyeux, torsadés, en une belle coiffure, c'était une superbe créature. Qingxi était depuis longtemps réputée pour être d'une grande beauté, dotée d'une intelligence à la hauteur de son physique, aussi expérimentée dans l'art du maquillage que dans celui de la guerre. Le gouverneur et Qingxi firent en pensée un retour dans le passé. Lui, au temps où il supervisait sa capitulation au nom de l'empereur, elle, toujours irritée à ce souvenir, réussissait néanmoins à faire preuve d'une civilité un peu forcée. « Vous vous en êtes bien sortie avec tout cela, Madame Xi !» s'écria en riant le gouverneur. Il admirait son esprit fougueux, mais avait bien savouré sa propre heure de gloire lorsqu'elle avait dû se rendre. « Oh, je ne m'en suis pas encore complètement sortie, gouverneur, mais ce sera pour bientôt, je l'espère. » Ses yeux le transpercèrent. Un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. À peu près au même moment, le secrétaire du gouverneur se rendait à la résidence de Qingxi avec des preuves accablantes. L'histoire du maquillage en Chine remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Son patrimoine est riche des différentes façons d'apprêter le visage selon les préférences de la dynastie régnante de l'époque. La plupart des modes de maquillage naissaient au palais impérial. Les concubines expérimentaient des styles susceptibles de les rendre séduisantes et de leur garder les faveurs de l'empereur. Historiquement, les cosmétiques étaient élaborés avec des huiles végétales ou animales pures et des épices naturelles. La technique habituelle de fabrication comprenait l'ébullition, la fermentation et la filtration, procédés manuels bien laborieux au regard des méthodes modernes de production des cosmétiques. Au fil des siècles, on apprécia une diversité de procédés, tant pour peindre les sourcils et les lèvres que pour mettre du rouge ou du fard. La coiffure aussi changeait continuellement. Contrairement aux époques précédentes, le maquillage des femmes de la dynastie Qing était subtil et sobre selon une esthétique élégante et simple. Les sourcils étaient minces et courbés comme un croissant de lune. Les femmes de classe supérieure dessinaient l'arcade sourcilière plus haute. Les premiers crayons à sourcils utilisés à l'époque étaient des branches de saule brûlées. Par la suite, la poudre à sourcils ou dye fut fabriquée en broyant un minéral bleu foncé sur une pierre à encre en poudre. Le maquillage des yeux était léger et doux. L'application de rouge était moins spectaculaire, on préférait une légère teinte rose. On fabriquait le fard en utilisant des pigments botaniques de cartame ou des pétales de rose broyés et traités avec de l'huile essentielle d'osmanthus. Dans l'ensemble, cela donnait un aspect sain et naturel. Les Chinois aimaient la couleur rouge, associée à la vie, à l'énergie et à la chance. De ce fait, cette couleur était souvent appliquée sur les lèvres et les joues pour obtenir une allure plus jeune et plus dynamique. Les femmes peignaient leurs lèvres cramoisies seulement au milieu de la lèvre inférieure. Parfois, seul le centre des deux lèvres était marqué. Le pigment dérivé des fleurs était à l'occasion mélangé à des épices, comme le clou de girofle et des huiles essentielles pour obtenir un beau parfum. Bien que les baumes et rouges à lèvres constituaient les techniques ordinaires pour colorer les lèvres, il existait un produit cosmétique chinois unique, le rouge à lèvres papier, produit par la teinture de pâte à papier avec des pigments de fleurs. Pour l'utiliser, il suffisait de presser le papier entre ses lèvres et voilà, les lèvres étaient joliment colorées. Elle avait parié sur le bateau dragon qui avait remporté la course. Elle aimait cela. La victoire lui venait facilement, que ce soit en tant que chef pirate ou même quand elle s'était finalement rendue à l'empereur Ting en 1810. Elle avait pu négocier la liberté pour elle-même et pour son équipage. En regardant les bateaux dragons franchir la ligne d'arrivée, au moment où la surexcitation des festivités était à son comble, elle se souvenait des cris de victoire de son propre équipage quand il avait coulé le dernier des navires portugais. En 1809, sa flotte et celle de ses alliés pirates avaient le double de la taille de celle des forces de l'Angleterre et de l'Espagne lors de la grande bataille navale de l'Armada. Cependant, en janvier 1810, compte tenu des conditions de reddition avantageuses proposées par le gouvernement chinois, les différents groupes de pirates commencèrent à se rendre, un escadron à la fois. En 3 semaines, 9000 pirates avaient déposé les armes, dont celles de Ching Shi et de sa flotte. Revenue au moment présent, l'assistante de Ching Shi lui apprit la venue du secrétaire. Elle comprit que la mission qu'elle lui avait confiée était un succès. La preuve de la corruption du gouverneur devait se trouver dorénavant chez elle, sur sa table, dans son bureau. Elle tenait sa revanche. « Je vais prendre congé maintenant, gouverneur, avec la promesse de votre visite prochaine. Vous ne le regretterez pas. » Ching Shi lui jeta un regard empreint de coquetterie, s'inclinant très légèrement. Elle se jouait de lui comme un chat avec une souris. Bientôt de retour à sa résidence, elle avait hâte de se reposer et de se délasser dans ses appartements. Alors qu'elle était assise à la coiffeuse de son boudoir, Chu ôta les bijoux de ses cheveux et dénoua doucement sa chevelure. Elle prit ensuite de l'huile de graines de sésame infusée d'herbe pour enlever le maquillage. « La journée a été fatigante. Trop de souvenirs et de responsabilités me pèsent. J'ai besoin de me détendre un peu. » Ching Shi soupira en fermant les yeux. Avec une pierre lisse de jade blanche sortie de sa boîte, Chu commença à lui masser doucement le visage et le cou, insistant de manière experte sur ses muscles contractés. Ching Shi laissa échapper un soupir, s'abandonnant une fois de plus aux énergies curatives de la pierre. Elle se prélasserait bientôt dans un bain chaud, à vertus thérapeutiques parfumées et préparées spécialement pour elle avec des racines, des chrysanthèmes, des poivrons et du gingembre. La médecine traditionnelle chinoise, tout en préconisant dans les recettes de beauté diverses herbes, fleurs, minéraux et produits d'origine animale, conseillait également, pour les rituels, les pierres soignantes. L'outil de sculpture du visage Gua Sha et les populaires rouleaux de jade d'aujourd'hui ont leurs origines en Chine. Les pierres comme le quartz rose et le jade vert sont réputées pour avoir des propriétés rafraîchissantes, apaisantes et énergisantes lorsqu'elles sont utilisées pour masser le visage et le cou de la manière prescrite. L'idée est que les rides, les taches de vieillesse et les vaisseaux sanguins éclatés proviennent souvent de la chaleur toxique sous la peau. Il faut donc refroidir l'épiderme le plus possible pour aider à éliminer cette chaleur toxique. Le Gua Sha a été consigné par écrit pour la première fois sous la dynastie Yuan. Selon la légende, il y a des milliers d'années, les agriculteurs auraient découvert que le fait de glisser doucement un morceau de porcelaine ou une pièce de monnaie sur un coup de soleil aidait à en atténuer la brûlure. Les gens utilisaient également des cuillères à soupe chinoises pour faire office de Gua Sha. Il est encore employé aujourd'hui en médecine traditionnelle chinoise pour aider à soulager la douleur et augmenter la circulation et le flux d'énergie. On dit que le Gua Sha, pratiqué sur le visage, favorise la circulation sanguine, facilite le drainage lymphatique et stimule le collagène et l'élastine pour garder souples et lisses les muscles et la peau du visage. Un outil Gua Sha, fait de quartz rose, de jade ou de pierre bian, sert ensuite à gratter doucement la figure. Celle-ci a été préalablement préparée avec une huile comme l'huile d'amande, d'argan ou de jojoba, selon des prescriptions spécifiques pour dégonfler, lisser et tonifier l'épiderme. Il y a quelques années, son prédécesseur, le rouleau de jade, a été rendu célèbre. Un rouleau est un outil de massage pour la relaxation, fabriqué avec des pierres de refroidissement similaires à la pierre Gua Sha. Parmi ces pierres se trouvait le jade blanc, ou pierre d'éternelle jeunesse, utilisée par les empereurs chinois pendant plus d'un millénaire. Réputée pour ses propriétés anti-vieillissement et relaxantes, c'est la pierre de guérison privilégiée dans les anciennes coutumes de beauté chinoise. La première inscription faisant référence à la tradition chinoise du bain a été consignée il y a environ 3000 ans. En 1700 avant Jésus-Christ, au temps de la dynastie Shang, les baignoires étaient généralement en bronze ou en bois. Au XVIIIe siècle, la noblesse bénéficiait de salles de bain privées, tandis que l'homme du peuple utilisait les nombreux bains publics. Les femmes de l'aristocratie se baignaient dans une eau parfumée avec des infusions d'herbes et de fleurs thérapeutiques. Le gouverneur est arrivé à la résidence, madame, avertit doucement l'assistante de Qing Shi le lendemain. Elle avait attendu et maintenant l'heure de la revanche avait sonné. Elle sortit de son bureau, siège de son influence grandissante dans les affaires et le gouvernement, et se dirigea vers le salon des visiteurs. Le gouverneur était assis là, l'air à la fois choqué et bouleversé. Il avait sous-estimé l'ambition et le caractère impitoyable de Qing Shi. « Madame Shi, je vous en prie, je vais être jetée à la potence », supplia-t-il terrifié. Des gouttes de sueur coulaient le long de son visage. « S'il vous plaît, n'informez pas le palais. » Maintenant, il tremblait devant elle. Qing Shi le regarda, de ses yeux froids et calculateurs. Au palais, le gouverneur avait accès au ministre. Ce serait une excellente position, une fois qu'elle en aurait assez de son nouveau poste. « À une condition, Excellence, » dit-elle légèrement, « que vous me cédiez votre titre. » Et une fois que je serai gouverneur, nous ferons bon usage de votre proximité avec les ministres du palais. Cette fois, elle s'en était vraiment complètement sortie. Sa victoire était totale.
Vous venez d'écouter un épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.